Bonjour à tous. Bon jeudi matin, tout le monde. On a exceptionnellement aujourd'hui deux grands sujets de débat. Un par heure, et vous allez voir, ce sont deux sujets qui sont vraiment au cœur de l'actualité. On va parler, bien sûr, on va revenir sur la fin du règne du lavage corporel à la débarbouillette dans les CHSLD, puisque, heureusement, il y a quelqu'un qui est revenu à la raison au ministère de la Santé et a fini par consentir aux usagers, c'est comme ça qu'on les appelle, bizarre de nom, les usagers des CHSLD, usagers comme dans vieux, usé, prêt à être jeté, ça sonne comme ça. Tu sais, quand tu dis quelque chose, c'est usagé. En tout cas, on a, tu sais, c'est comme le patient qui va attendre des heures à l'hôpital, t'as l'usager dans le CHSLD. Toujours est-il que, jusqu'à maintenant, le docteur Barrette, ministre de la Santé, nous avait dit non, tout va bien, le lavage à la débarbouillette, c'est parfait. Un bain par semaine, bain en masse. Mais vous savez comment c'est. En année préélectorale, ben finalement, on s'est dit, oh, on va compter nos sous. On a trop. Allez, hop, un deuxième bain. Et la même journée, ou à peu près, on annonce des augmentations de salaire également pour les médecins. Généreuse augmentation de salaire, 10 % en 3 ans pour les omnipraticiens qui trouvaient que, après avoir eu un rattrapage par rapport à leurs collègues des autres provinces, ils trouvaient qu'il y avait encore un écart entre les spécialistes. Donc, voilà. Ils étaient pas contents. Ils voulaient d'autres augmentations. Ils les ont eues. Qu'est-ce que vous voulez? C'est Noël. C'est Noël avant le temps. Vous avez juste à demander. Peut-être que vous allez avoir quelque chose du gouvernement. Sont bien gentils en ce moment. Fait que si on parlera de ça en deuxième heure d'émission, puis je pense que vous allez être nombreux à réagir, parce que oui, on ne sera pas contre la vertu, le deuxième bain, on le demandait depuis tellement longtemps, il était temps qu'il arrive, mais quant à tout le reste, à la gestion globale du système de santé, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui doivent être dites. Mais on va revenir sur un sujet qui est aussi un enjeu dans notre société québécoise, c'est le fameux TDAH. Vous savez qu'il y a de plus en plus de Québécois, d'enfants et d'adultes également, qui reçoivent des diagnostics de TDAH, c'est-à-dire de troubles de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, difficulté de concentration, hyperactivité, émotivité, surémotivité. Souvent, le premier réflexe, c'est de dire, on va vous donner des médicaments. Au Québec, on le sait, on a la gâchette facile. Le nombre d'enfants et d'adultes diagnostiqués pour un TDAH augmente à des vitesses incroyables. L'année dernière, on parlait de plus de 38 000 enfants et ados et 44 000 adultes qui avait reçu ce diagnostic-là. C'est pas rien. Je voulais vous en parler aujourd'hui parce que plus tôt cette semaine, il y a mon collègue Paul Arcand qui a fait une entrevue avec un psychanalyste et un psychiatre, Patrick Lenman, qui a écrit un livre il y a quelques années qui s'intitule « Tous interactifs » avec un point d'interrogation. Il pose la question, est-ce qu'on l'est vraiment tant que ça? Et à Paul Arcand cette semaine, il expliquait pourquoi, selon lui, le TDAH est une maladie inventée.
Il n'y a aucune preuve scientifique de l'existence du TDAH. Et malgré, je dirais, des milliers, pour ne pas dire des dizaines de milliers d'études, en particulier d'imagerie cérébrale, aucun résultat n'a été véritablement probant. C'est-à-dire que nous sommes vraiment devant une construction sociale qui est devenue un fait social et qui est globalisée, mais qui n'a aucune validité scientifique réelle. C'est effectivement une démarche qui est, je dirais, poussée par un certain nombre d'intervenants qui ont intérêt à l'extension de ce marché. Et puis, il faut dire aussi, à la demande pressante, parfois des familles, parfois des associations d'usagers, il ne faut pas tout mettre sur le compte, je dirais, des firmes pharmaceutiques, même si elles sont très actives, parce qu'elles ont un intérêt commercial immédiat dans la vente, dans la promotion de ce TDAH. Mais, encore une fois, il n'y a aucune preuve scientifique qui puisse, malgré des dizaines de millions de dollars dépensés dans différentes études, certaines qui se clamaient qu'ils avaient trouvé des marqueurs biologiques, en fait, on a essayé de repliquer ces expériences, rien n'a été probant. Donc, pour l'instant, en 2017, aujourd'hui, le 20 septembre, il n'y a aucune preuve scientifique de l'existence du TDAH.
Ça fesse, hein? Et moi, quand j'ai entendu ça dans l'émission de mon collègue Paul Arcand, que je vous encourage d'ailleurs à y réécouter en version longue, cette entrevue fort intéressant, Patrick Lenman, je pense qu'on s'est dit avec l'équipe, il faut absolument en discuter, parce que chez nous, le TDAH a pris des proportions presque épidémiques. Je vous présente mes invités. Il est docteur en neurosciences, il est directeur de l'Institut du développement de l'enfant et de la famille. Il a écrit plusieurs livres, entre autres « J'ai juste besoin d'être compris », Joël Monzé, dont c'est la bataille depuis plusieurs années. année d'essayer de faire comprendre à tout le monde que le TDAH mérite pas qu'on donne du Ritalin comme on le fait au Québec. Merci d'être là, Joël Monzé.
Avec plaisir.
Votre réaction par rapport à ce qu'on vient d'entendre?
Mais en fait, tant sur le plan scientifique, sur le plan clinique, je suis d'accord avec le professeur Landman. Tout simplement parce que, tu sais, jusque dans les années 2000, on parlait du syndrome d'inattention, syndrome d'hyperactivité. Un syndrome, c'est un regroupement de symptômes dont on ne connaît pas nécessairement l'origine. Depuis le DSM-4, c'est-à-dire la Bible en psychopathologie, on parle d'un trouble comme si la maladie était clairement identifiée. Mmh. Or, plus on avance dans les études en neuroimagerie, et moins c'est clair. Souvent, une maladie, il y a un point A pour arriver à un point B, c'est une ligne directe. Or, on se rend compte dans plusieurs troubles de santé mentale, et c'est la même chose en dépression. Dans la dépression, on sait qu'il y a 9 zones du cerveau qui peuvent déclencher les mêmes symptômes. Ça veut dire que sur le plan clinique, on devrait avoir au moins 9 réponses différentes pour répondre aux besoins de la personne. Or, on a un Québécois sur 4 qui est sous antidépresseur. Je ne pense pas qu'il y ait un Québécois sur 4.
1 sur 4?
1 sur 4, ça c'est les chiffres réels. Je ne pense pas qu'il y ait un Québécois sur 4 qui soit dépressif. Je crois qu'on a la même chose avec l'hyperactivité et avec le déficit d'attention. On peut avoir un paquet de facteurs qui peuvent induire les mêmes symptômes et si on ne prend pas garde, si on regarde juste les symptômes et qu'on en déduit que c'est une maladie, qu'on met un diagnostic qui permet de pouvoir prescrire du Ritalin et qu'on sort, à ce moment-là, on ne répondra peut-être pas aux réels besoins de l'enfant. Et c'est ça la vraie question. Est-ce que notre manière d'intervenir auprès de l'enfant, que ce soit avec un médicament ou des techniques alternatives ou complémentaires, est-ce que nous répondons correctement aux besoins de la personne pour qu'elle puisse arriver à se développer?
Mais puis on va y revenir parce que c'est tout intéressant ce que vous dites, Joël, mais la question demeure, est-ce qu'on est effectivement, puis il la pose cette question, c'est le titre de son livre, Patrick Landman dit, est-ce qu'on est effectivement tous hyperactifs? Parce que c'est un peu ce qu'on nous amène à penser. Julie Philippon est avec nous. Julie a déjà été enseignante, elle écrit un blog, elle donne des conférences aujourd'hui sur le TDAH parce qu'elle a reçu, merci Julie d'être là,
bonjour.
Il y a quelques années, donc à l'âge adulte, à 40 ans, ça fait 4 ans que tu sais que t'es TDAH. Tes deux enfants également, âgés de 11 et 13 ans, ont reçu chacun un diagnostic de trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité. On dit aussi qu'il y a une composante génétique importante. Quand t'entends quelqu'un comme le docteur Landman, comme Joël Monzé, on connaissait la position de Joël au Québec ici, mais bon, d'avoir des gens comme ça qui ont fait des études, qui se basent sur d'autres études aussi et qui disent, écoutez, c'est une épidémie créée par les pharmaceutiques ou souvent aussi des fois aux familles qui demandent qu'on fasse quelque chose parce qu'il y a effectivement des symptômes qu'on ne semble pas être capable d'expliquer. Comment tu réponds à ça?
Bien, j'ai failli pas répondre parce que je trouvais que c'est un sujet chaud puis que c'était facile de tomber dans les préjugés ou les raccourcis, des raccourcis intellectuels ou des tabous. Puis je trouve qu'il y a un côté un peu sensationnaliste qui attire l'attention sur les mauvaises choses parce que j'ai réécouté l'entrevue plusieurs fois. Puis le titre de l'entrevue, bon, ça me choque. Je trouve que c'est manquer de respect pour toutes les personnes qui ont ce diagnostic-là, pardon.
Quand on dit est-ce que le TDAH est une maladie inventée?
Bien, pour commencer, c'est pas une maladie, c'est un trouble neurologique. Moi, j'ai jamais dit que c'était une maladie. Puis non, c'est vrai que ça se guérit pas. Puis la médication, c'est une des choses qui peut aider. Mais moi aussi, je pense pas que c'est la solution ou la vérité. Je pense que c'est vraiment un ensemble de plein de composantes. Puis
toi, tu es plutôt choquée par les propos de Patrick Landman, le psychanalyste, ou par ce que Joël dit, par exemple?
Joël ne me choque pas. Je respecte beaucoup Joël. Toi aussi, Isabelle. Puis c'est pour ça que j'ai accepté de venir, même si j'avais un malaise au départ, parce que je me disais, bon, c'est un sujet que... moi, je viens de parler avec mon cœur. Je viens de parler avec mon chapeau de maman, d'enseignante pendant 23 ans, d'avoir eu un diagnostic tard. Donc, j'ai été fonctionnelle dans ma vie. Je ne l'ai pas eu parce que, moi, j'étais performante, mais j'ai compensé. Puis, j'ai été suivie et je suis encore suivie par une psychiatre qui a posé le diagnostic, que je vois assez régulièrement. Fait que je trouve que des propos comme ça, c'est d'enlever la crédibilité aux autres scientifiques. Mm-hmm. Moi, j'ai aussi un document que je pourrais vous envoyer qui date de 2016 puis qui disent que, on a observé des marqueurs. Fait que, j'ai l'impression qu'il y a toujours en plus des recherches ou des contre-recherches qui viennent un peu tirer à droite puis à gauche. Mais au-delà de ça, comment...
Toi, tu le vis, hein? Toi, tu le vis, le TDAH.
Oui, puis je trouve que ce que Joël a amené à la fin, c'est exactement ma position. Qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux vivre avec ça?
Ouais.
Est-ce qu'il y a trop de diagnostics? Est-ce que parce qu'il y a trop de diagnostics que c'est pas correct? Je sais pas.
Ouais.
Puis un diagnostic ne veut pas dire nécessairement de la médication. Un diagnostic permet après de mettre des mesures en place. Il permet d'adapter l'environnement. Il permet aussi de comprendre comment l'enfant apprend. Si comme enseignante, je reçois un rapport avec des recommandations de Joël, par exemple, qui me dit, mettons, l'enfant a besoin de pictogrammes pour se rappeler, il a besoin d'outils, un sablier, telle chose, d'avoir des... peut-être d'adapter la tâche, la diviser, bien, on va être gagnant.
Mais si, moi, je trouve ça toujours intéressant de poser des questions puis de remettre les choses en cause. T'sais.
Allons-y.
Moi, je suis ni psychologue, ni psychanalyste, et c'est pour ça que je me réfère à des gens qui le sont pour regarder, puis je lis des études, par exemple. Ça, je suis capable de lire puis de faire des liens. Et au même titre où Joël disait, ben, il y a un Québécois sur quatre qui est sur les antidépresseurs. Est-ce qu'il y a un Québécois sur quatre qui est en dépression? Non. Est-ce que, quand on voit le nombre de prescriptions de Ritalin, puis vous avez peut-être des chiffres,
Joël? Je ne les connais pas plus. En fait, c'est de plus en plus difficile d'avoir les vrais chiffres.
Mais on sait qu'il y a beaucoup d'enfants et de plus en plus d'adultes également qui reçoivent ce diagnostic et qui donc à qui on prescrit ces médicaments-là, qui sont dans les 10 médicaments, d'après la dernière fois où j'ai regardé la liste, là, dans les médicaments les plus prescrits au Québec. Là, tu te dis, OK, est-ce qu'on n'a pas le diagnostic facile, sans remettre en cause le fait qu'il y a effectivement un trouble? Est-ce qu'on prescrit pas trop de choses? Moi, je me souviens à l'époque, ma fille avait en secondaire 1 un petit problème d'inattention à l'école. On l'a reçu le diagnostic de TDAH. On a dit, votre fille devrait prendre du Ritalin. Alors qu'on m'a dit, elle a un problème d'organisation. Et, OK, si elle a un problème d'organisation, on va aider à s'organiser. Puis elle a bien fonctionné ensuite. Tu sais, souvent, puis je me suis intéressée à savoir en secondaire 1, secondaire 2, puis tous les pédopsychiatres vont dire, ben, souvent les jeunes au passage du secondaire, au passage du primaire au secondaire, ont un petit problème d'inattention parce que c'est nouveau. Donc, il faut les aider. Alors, est-ce que c'est parce qu'on coupe les coins ronds qu'on donne plus de Ritalin et qu'on a tendance à donner plus de diagnostics de TDAH? C'est ce genre de questions qui m'intéressent.
Mais la personne qui vous a dit qu'elle avait un TDAH, c'est l'école ou c'est un professionnel?
C'est un professionnel.
Parce qu'il y a ça aussi,
Ça part souvent de l'école. Ça part souvent de l'école.
Mais ce qu'il y a, c'est que les symptômes sont facilement rencontrables. Il y a eu une grosse étude qui a été faite par Santé Canada déjà en 1999. Il a interrogé 1500 médecins et plus. Et ce qui ressortait, en fait, c'est que c'est trop facile de rencontrer parce que c'est trop vulgarisé. Et quand on dit qu'on a une difficulté de s'organiser, il peut y avoir plein de choses pour lesquelles on a la difficulté à s'organiser. Peut-être que certaines personnes TDAH ont de la misère à s'organiser.
C'est ça, oui.
Mais ce n'est pas parce que j'ai de la misère à m'organiser que je suis nécessairement TDAH.
Mais comment on sait d'abord qu'on est TDAH ou pas? Là? Toi, par exemple, Julie, comment tu l'as su? Tu es allée voir un médecin parce que tu ressentais quelque chose, visiblement. Tu te disais, j'ai de la misère à fonctionner. Si tu étais performante, tu disais que tu étais performante pourtant.
Oui, mais un n'empêche pas l'autre. Ouais. À la limite, les gens qui sont performants vont mieux réussir si on a un diagnostic de TDAH ou des choses comme ça que d'autres, puis ça va faire une différence. Mais en fait, je suis venue ici avec Louis Sainte-Marie.
Oui.
Parce que j'accompagnais mon père qui était malade.
Mm-hmm.
Puis j'ai vécu des choses qui étaient difficiles. Puis finalement, je me suis retrouvée à consulter une psychiatre. Et quand j'ai consulté au départ, ben c'était absolument pas pour ça. C'est quand ma situation s'est améliorée, que j'étais plus en état de survie, que j'étais moins anxieuse, que les autres choses ont été comme... J'étais outillée ou que ça allait mieux. Bon, mon père est décédé aussi. J'avais l'impression qu'il était parti. Bien, il y a un moment donné où il y avait d'autres choses qui accrochaient. Puis c'est à partir de là que là, il y a eu un rapport où en même temps, elle m'évaluait aussi à chaque fois que je la rencontrais. Puis à un moment donné, bien, ça a été tu aurais un déficit de l'attention avec hyperactivité. Puis moi, mon frère à l'école, il n'y a pas de diagnostic. Mm-hmm. Mon frère était plus le modèle, le tannant qui se faisait peut-être sortir de l'école des fois ou qui était impulsif ou qui donnait un coup dans le casier. Moi, je parlais. Moi, je faisais tous les projets. J'étais présente de l'école. J'avais comme besoin de beaucoup d'activités.
Mm-hmm.
Mais je n'étais pas une vraie tannante. Fait que, j'avais comme pas de problème de comportement ou des choses comme ça. Mais au niveau à d'autres aspects, parce que dans le fond, l'hyperactivité ou quand on a un diagnostic comme ça, Joël, tu vas pouvoir confirmer, mais ça affecte comme plusieurs sphères, dont aussi l'hypersensibilité.
Oui, oui.
Moi, c'est beaucoup de ce côté-là que je vois une différence.
Une amélioration depuis que tu prends les médicaments, c'est ça?
Oui, puis j'ai dû arrêter aussi pendant une période parce que j'étais malade, je prenais les médicaments pour stimuler calmer mon cœur, fait que je pouvais plus prendre...
Les deux.
Les deux.
Oui, oui.
Puis sur le coup, j'ai fait, ça change rien, j'ai vraiment pas besoin finalement de médicaments. Puis tu sais, je me suis beaucoup remise en question. Puis après, après quelques mois, moi, c'est au niveau de l'organisation de... Même en mettant des outils, des alarmes, j'adapte plein de choses.
Mais, qu'est-ce que c'est dire des alarmes?
Ben, j'ai des alarmes sur mon téléphone, j'ai des time-timers, j'ai des calendriers. Je mets vraiment beaucoup d'outils pour pallier.
Pour t'encadrer, c'est ça?
Oui, pour m'encadrer. Puis quand, pendant cette période-là, là, ben, j'ai perdu le contrôle de ma paperasse, les factures. Bon, j'ai beaucoup de rapports pour mes enfants ou de paperasse aussi par rapport aux démarches qu'ils ont ou tout ça. Mais j'ai vraiment...
Alors que quand tu étais médicamentée, c'est du Ritalin, toi, que tu prends?
Non, moi, je prends du Vivance.
Okay, mais c'est dans la famille?
Mm-hmm. Oui, c'est une amphétamine.
Donc, quand t'en prends, tu te rends compte que t'es plus capable de gérer tes affaires, alors que quand t'en prends pas, là, c'est un peu le...
Mais c'est pas magique.
Ouais.
Ça se fait pas du jour au lendemain, en tout cas pas pour le Vivance, puis comment je l'ai vécu, puis ça a été long. Puis en fait, j'ai commencé la médication la journée que mon père est mort. Fait que ça a pris aussi un peu de temps avant que je vois quelque chose.
Ouais, ouais, ouais.
Mais ce que ça a fait, c'est qu'il y a des moments où, mettons, qu'il y en a que ça va être la grosse colère, qu'ils vont être incapables de se contrôler parce qu'ils sont impulsifs puis que la colère prend toute la place. Ben moi, c'était beaucoup de l'émotivité puis de pleurer. Mm-hmm. Puis des fois, il y a des moments où je ressens la même émotion que j'avais, mais mes yeux ne coulent pas. Puis pleurer quand on est en colère ou pleurer quand on est au travail pour exprimer une émotion, les gens disent « Ah, c'est beau, t'es capable de pleurer », mais dans le quotidien, c'est pas
le fun, la vie.
C'est pas nécessairement le fun.
Ouais.
Fait que de régulariser un peu l'émotion. Puis au niveau de mon organisation, mais c'est très...
Parce que tu trouvais que tu ressentais trop, finalement. Parce que tu dis régulariser les émotions. Quand on entend cette phrase-là, on se dit, mais on est des humains, est-ce qu'on a besoin de régulariser nos émotions, dans
le fond? Mais si on...
Tu sais, ça se peut que tu sois une hypersensible.
Ah, mais je suis hypersensible, probablement. Ben... Je donne la
mais
parole.
Toi, tu te sens mieux.
Ben, moi, je me sens mieux.
Ouais, c'est ça qui compte.
Je suis capable de mieux fonctionner par rapport aux responsabilités, par rapport à toute la gestion du temps. Comme mettons pour venir ce matin, je viens de loin.
Ouais.
Ben, c'est comme si c'était abstrait. Mm-hmm. Puis comme les autres choses vont bien dans ma vie, ben, je faisais moins attention. Mais en fait, recevant un diagnostic, là, c'est pas juste la médication, c'est de comprendre, OK, pourquoi moi, cette affaire-là, je suis pas bonne.
Mm-hmm.
Puis que je me sens pas, tout ça. Ben, OK, j'ai une difficulté à ce niveau-là.
Okay.
Puis, ben, il y a plein de choses qui sont pas juste chimiques qu'on peut mettre en place. Puis autant pour les enfants que les adultes. Puis je pense que c'est ça qui est important.
On va y revenir. Écoute, il y a déjà des gens qui veulent intervenir, nous raconter comment ils vivent, j'imagine, avec le TDAH, parce que on le voit, là, il y a une augmentation de diagnostics chez les adultes. Évidemment, chez les enfants, ça se poursuit. Merci de ton témoignage, Julie. Merci d'être venue.
C'est très touchant, oui.
Oui, puis je pense que ça touche beaucoup les gens. Évidemment, bon, là, on a des spécialistes qui nous disent c'est pas non plus... Il n'y a aucune validité scientifique réelle, c'est ce que dit Patrick Landman, psychanalyste et psychologue. Joël Monzé le dit aussi, docteur en neurosciences depuis un petit moment. Attention, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que du Ritalin dans la vie. Est-ce qu'on est tous hyperactifs? J'ai hâte de vous entendre là-dessus. 514-790-9850. On parle de TDAH ce matin, de cette... comme certains spécialistes... Et là, je pèse mes mots, j'essaye d'y mettre des pincettes, là. C'est pas évidemment, on n'affirme pas ce matin qu'il n'y a pas de TDAH puis qu'il n'y a pas de trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Mais il y a effectivement des voix de plus en plus nombreuses qui s'élèvent pour dire attention avant de considérer que tout le monde est hyperactif puis qu'il faut prendre des pilules pour gérer ça, gérer nos émotions. Ce que disait entre autres le docteur Landman, entre autres dans cette entrevue, c'est que il a écrit tout un livre là-dessus. Je vous encourage à aller le lire. Ça s'intitule Tous hyperactifs avec un point d'interrogation. Il parle de cette incroyable épidémie des troubles de l'attention. Notre société aussi nous pousse-t-elle, je pose la question, ne pousserait-elle pas à devenir inattentif? Il y a tellement de choses qui se passent. Donc, écoutez, vous pouvez nous appeler et puis témoigner de ce que vous vivez, surtout si vous avez reçu un diagnostic. 514-790-9850 et sans frais le 1-866-790-9850. Stéphanie, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous avez reçu un diagnostic, vous?
Oui.
Oui.
Et mes enfants aussi.
Ouais.
Et puis, ben, ça me rend triste. En même temps, je suis d'accord avec les spécialistes, ben, le docteur. Moi, ça m'a sauvé la vie, naturellement, parce que quand j'ai eu des enfants, j'étais même plus capable de m'organiser. J'ai fait 3 dépressions parce que je me demandais justement pourquoi tout le monde le fait, puis moi, je suis pas capable d'être une maman, puis de m'occuper du ménage, puis de m'occuper de ci, puis de ça. Puis mon fils, quand je l'ai vu grandir, je les regardais, puis mon Dieu, je pourrais vous en parler pendant une demi-heure, là. Puis j'ai vu mon miroir, fait que là, quand moi j'ai été diagnostiquée, ben j'ai dit, bon, on va aller voir le neurologue. Moi, je suis contre de donner des médicaments pour donner des médicaments, ça n'a pas d'allure. Mais en tant que parent aussi, quand on donne un médicament, on doit observer, y a-tu des changements, y a-tu quelque chose qui se passe? Puis ma fille, elle a eu le elle est dysphasique, toutes les dyslexiques puis tout, puis elle va à Vanguard, excellente école, elle a été acceptée. Mais eux, ils voudraient peut-être qu'elle prenne la médication, elle a été diagnostiquée TDA. Mais moi, je dis, on a essayé. J'ai pas vu de différence. C'est quand même difficile rendu au soir. Sauf qu'elle se lève à 5 heures le matin. Moi aussi, je serais pas capable de fonctionner toute la journée.
Oh mon Dieu, vous avez tellement raison, Stéphanie. Vous avez tellement raison.
Puis l'autre question que je me pose, c'est s'il y a tant d'enfants avec ce trouble-là, c'est peut-être que c'est la manière d'enseigner qui est plus bonne parce que c'est plate, l'école. C'est plate. Fait que là, ben, on leur demande de rester assis à journée longue. Eux sont surstimulés par les écrans. Le cerveau, là, je suis sûr qu'il a changé. Il a muté ou quelque chose qui s'est passé. Puis les enfants n'apprennent plus comme ils apprenaient.
Mais vous...
Et au lieu de changer un système, on va les médicamenter.
Ben, en fait, le drame, c'est que le cerveau n'a pas changé et réagit encore comme on devrait réagir si on était dans la brousse, si on était dans le bois, si on était dans une situation de danger. Ça veut dire que si le cours ne m'intéresse pas, je ne vais pas libérer suffisamment de dopamine que pour pouvoir rester assis sur ma chaise et écouter le professeur. Donc, à ce moment-là, il y a un moment donné où le professeur, je vais le percevoir, ce ne sera pas vrai, mais je vais le percevoir comme un loup ou comme un ours. Si je perçois mon professeur comme un ours, je vais partir dans la lune, parce que si vous êtes face à un loup, vous avez intérêt à faire le mort, c'est la seule chance que vous avez de sortir vivant de l'expérience. Par contre, si vous êtes face à un loup, vous avez intérêt à grimper rapidement dans un arbre, parce qu'il court plus vite que vous. Donc, ou à sortir votre arc à flèche. Donc, l'impulsivité,
la réaction... On est encore là, vraiment, oui, c'est vrai, ça reste dans nos gènes, ça,
mais oui. La génétique est là. Regardons, par exemple, les dents sagesse. Elles n'ont plus aucune utilité dans notre vie actuelle, mais elles existent encore parce qu'à l'époque où on ne cuisait pas notre viande, eh bien, c'était bien utile. Ouais. Donc, il y a un paquet de comportements qui sont très utiles d'un point de vue survie de l'individu, mais quand on l'a dans une classe, quand on l'a dans une
mais
famille...
Mais qu'est-ce qu'on fait des adultes? Parce que les adultes ne sont plus à l'école. Par exemple, Stéphanie, vous êtes toujours là?
Oui, je suis là.
Vous, quand vous étiez plus jeune, vous étiez à l'école, étiez-vous aussi comme ça, là, devant le loup, devant l'ours, étiez-vous au TDAH déjà?
Oui. Oui, parce que le TDAH, on l'attrape pas, là. C'est pas, tu sais, il y a des critères pour être diagnostiqué, là. Je veux dire, si à l'école, puis même ça, c'est moi, c'était plus flagrant. Puis moi, dans ces années-là, j'étais juste paresseuse puis je comprenais rien. Fait que, tu sais, de mettre des étiquettes, de dire, OK, je diagnostique mon enfant, là, ça a été un deuil en tant que parent aussi parce que tu le sais que la société, comme exemple, des études comme ça, après, qui vont dire, parce que moi, quand je raconte mes symptômes, ben moi aussi, je suis TDAH. Oui, mais ça se vit. Quand je ne prenais pas de médicaments, là, je prenais pas de médication, j'avais de la misère à suivre une conversation au restaurant.
Ah ouais,
avec
à ce point-là.
Parce que la personne, elle me parlait, puis là, je regardais. Puis même encore aujourd'hui, ça me le fait, même avec la médication. Mais je suis capable, j'ai 43 ans, là, j'ai appris, j'ai des outils maintenant de me remettre dans l'instant présent. C'est aussi la méditation, ça m'a beaucoup aidé. Mais c'est facile aussi de dire, ça n'existe pas.
Vous le vivez, c'est ça.
Les symptômes existent, la détresse existe, la difficulté de s'adapter à toutes les situations de la vie moderne, elle existe. Ça, c'est la réalité que vit le patient, quel que soit son âge. Le problème, c'est la manière dont on va répondre à cette difficulté.
Et c'est là où vous dites, il n'y a pas que les médicaments.
Il n'y a pas que les médicaments, même quand le médicament peut être utilisé éventuellement pour stabiliser éventuellement la famille pendant quelques mois, le temps d'introduire d'autres choses. Ce qui est dangereux, c'est de dire que c'est une maladie qui est inéluctable, qu'on ne changera pas, qui ne se guérit pas, et ça, c'est pas vrai.
Mais Julie a dit tout à l'heure, elle l'a dit, ça se guérit pas, le TDAH. Vous vous dites que ça peut se guérir?
Le cerveau, quand on lui donne les bonnes choses, il se développe. Il est malléable jusqu'à la dernière journée de notre vie. On sait que notre cerveau atteint sa pleine maturité seulement entre 40 et 45 ans. Autrement dit, la plupart des jeunes profs, et surtout les jeunes parents, n'ont pas encore atteint leur pleine maturité cérébrale. Dans une société qui est en pleine mouvance, dans lequel les stresseurs sont diffus. On n'est plus face à un ours, face à un loup, on est face à des stresseurs diffus. Ça fait en sorte qu'on a de moins en moins d'outils pour pouvoir arriver à nous adapter à la société dans laquelle on est. Et c'est là qu'on perd pied, c'est là qu'on n'arrive plus à s'organiser, c'est là qu'on part dans la lune, c'est là qu'on réagit mal, qu'on n'est pas bien, qu'on est impulsif et ainsi de suite, parce qu'on n'est juste pas bien. Donc, comment est-ce qu'on répond au mal-être des personnes? Comment est-ce qu'on répond à cette difficulté-là? C'est certain qu'on ne peut pas changer la société à nous tout seuls, mais comment est-ce qu'on peut la changer dans nos microcosmes? Il y a des très beaux documentaires comme Demain, et d'autres qui montrent qu'il y a des solutions, mais de penser que mon trouble neurologique ne changera jamais, j'aurais peut-être toujours une nature plus impulsive ou une nature plus, introvertie ou extravertie, mais ça, c'est une nature d'une personne, c'est pas nécessairement une maladie.
Vous reprochez finalement à cette surmédication qu'elle finit par tuer un peu d'humanité en nous?
Moi, je pense que souvent, le discours est simpliste, y compris chez les spécialistes, parce qu'on essaye de vulgariser un paquet de choses qui sont complexes. Quand Julie parlait tantôt, c'est super touchant.
Elle le vit, et puis Stéphanie vit, vient nous témoigner ça. C'est les gens qui le vivent. Là.
Exactement, ouais. Comment simplifier ça pour l'expliquer dans un cours ou dans une conférence? Ouais. Et c'est là le défi pour les experts.
On revient tout de suite après la pause avec les commentaires de nos auditeurs. Restez là, tout le monde. On va aller voir les commentaires de nos auditeurs. On parle du fameux TDAH. Il y a des gens, des spécialistes qui disent attention, cette maladie inventée peut-être. Là. Je dis peut-être, là, on ne dit pas que c'est ça. Hein, vraiment, on pose la question, comme l'a fait entre autres Patrick Landman, qui est un psychanalyste, un psychologue, et qui dans un livre parle de l'incroyable épidémie des troubles de l'attention. Puis ça, je pense qu'on ne peut pas nier ça. Au Québec, entre autres, on l'a vu augmenter le nombre de prescriptions de Ritalin ou d'autres médicaments du genre. Évidemment, est-ce qu'on exagère? Est-ce qu'il y a trop de diagnostics? Est-ce qu'il y a effectivement peut-être pas des facteurs sociaux qui peuvent expliquer qu'on se sent tous peut-être un peu dans l'obligation d'être actif et qu'on finit par devenir hyperactif? Moi, je pose des questions. Amélie, vous vivez avec du TDAH?
Oui, bonjour. Mon fils a eu un diagnostic il y a 3 ans. Ça fait déjà depuis un peu plus que ça qu'on réfléchit à la question. Et je dois vous dire que d'entendre le docteur Landman, ça a été presque une libération. Parce que depuis le début, quand on a rencontré la neuropsy, quand j'ai eu le diagnostic, j'ai dit « OK, fine ». Mais dans le temps, on faisait des questionnaires à coups de pouce. Ça nous donnait c'était quoi nos traits de personnalité.
Oui.
À un moment donné, jusqu'à quel point on n'est pas ce qu'on est. Puis on a juste à vivre avec les défis. Ce que je disais avec mon fils, c'est tes défis, t'es chanceux, t'as 6 ans, puis tu les connais, puis il faut qu'on travaille avec. Puis par les yeux de mon fils, mon mari s'est dit, crime, je suis de même, je suis comme ça, je suis ci, je suis ça. Fait que lui aussi, c'est semi-auto-diagnostiqué. Mais là, je lui disais, t'as 42 ans, comment se fait-il que tu t'es rendu jusque-là? C'est parce que t'as développé des trucs, des astuces, des moyens, t'as été à l'université, t'as fait tout ce que t'avais à faire. Fait que, est-ce que la vie, c'est pas juste de connaître ses forces et des faiblesses, puis de travailler sur ça, puis de les voir comme des défis? Fait que, avec mon fils, c'est l'optique qu'on a pris. Puis on a été obligé de le médicamenter l'année passée parce qu'à l'école, ça fonctionnait pas. Mais ça a été une tristesse épouvantable, ça a été une catastrophe. Après 5 mois, on l'a arrêté parce que tous les symptômes ou presque étaient pires, sauf de se tenir en classe ou à peu près.
Ah oui, OK.
Fait que... Tu sais, c'est pourquoi, tu sais, c'est un peu ce que la dame disait tantôt, est-ce que l'école devrait changer? Bon, peut-être, mais mon fils aussi a dû apprendre à vivre dans cette société-là qui est l'école.
Ouais.
Mais dans le travail, on me dit, tu sais, par analyse de ce que mon fils vit, c'est sûr qu'on se rétro-analyse comme personne, comme adulte. Moi, je me suis toujours fait dire, hein, t'es dans 46 000 affaires, tu fais tout le temps plein d'affaires, comment tu fais? Moi, j'irais pas me chercher un diagnostic de TDAH, j'ai probablement beaucoup de ces traits-là. Donc, aujourd'hui, comme je disais à la neuropsy pour mon fils, ça fait partie de mes forces qui sont écrites sur mon CV, puis c'est pour ça qu'on m'embauche, puis qu'on me garde au travail, parce que je suis persistante sur ces aspects-là. Est-ce que c'est ma personnalité? Oui. Est-ce que le TDAH, c'est un trouble en partie de la personnalité? Oui. Puis à mon avis, c'est pas un trouble tant que ça devient pas... C'est un trouble, mais tant que ça devient pas un problème.
Ouais, ça dépend comment on le gère, c'est ça. Ben, je comprends très bien ce que vous dites. Amélie, merci beaucoup. On va entendre Marc à son tour. Bonjour, Marc.
Bonjour. Moi, là-dedans, ce qui me fâche, c'est que on fait passer les parents pour des mauvais parents si on donne du Concerta, du Ritalin, du Vivance, toutes ces molécules. Moi, je vais donner un exemple. Moi, mon garçon est rendu à 17 ans.
Ouais.
Si on recule de 17 ans, là, tout ce qu'on disait sur le Ritalin et toutes ces autres molécules était vraiment mauvais. On l'a fait suivre en orthophonie, on a fait vérifier les yeux, on s'est fait aller vérifier l'ouïe, on l'a fait suivre en orthophonie. On partait de Montréal pour se rendre à Québec pour le faire suivre en orthophonie. Puis par la suite, rendu à 7 ans, pour se faire dire, parce qu'on a, on a été consulté pour se faire dire qu'il y avait le TDAH. Moi, ma femme est enseignante en première année, elle a deux bacs, elle a une maîtrise, et je peux vous dire là, qu'au niveau de l'enseignement, là, elle a suivi mon garçon là, à la lettre. Donc, quand j'entends ce type de recherche qui dit que mon garçon, là, il est rendu à 17 ans, on lui enlève son, lui, il est sur le Concerta, on lui enlève sa pilule là, pendant une journée, deux jours, là, et puis avoir une conversation là, directe et franche avec lui, là, c'est impossible. C'est neurologique. Moi, le psychologue qu'on avait rencontré dans le temps nous avait dit, un myope porte une paire de lunettes, pourquoi? C'est pour mieux voir. Le Ritalin, le Concerta, le Vivant, ça s'appelle ce type de molécule, c'est la même chose pour le cerveau. C'est une paire de lunettes qu'on lui met pour faire en sorte qu'il est capable d'organiser sa pensée et d'être capable d'avancer.
Donc, vous l'avez vu clairement, Marc, la différence là, avec la médication.
Mon garçon, là, au primaire, là, faire les 7 jours, lundi, mardi, mercredi, en ligne, il n'était pas capable. Par la suite, c'est une stimulation du cerveau qui fait en sorte qu'il est capable de s'organiser. Donc, pour moi, quand j'entends ce type de recherche, et puis souvent, là, je serais confronté avec ces gens-là de dire, est-ce que vous avez des enfants qui ont un syndrome de TDAH? Je suis persuadé qu'ils ont été très, très rarement en contact avec ces enfants. Et une fois que ces enfants ont cette molécule, ça change, la vie, ça change la vie de l'enfant, ça change sa vie et ça change la vie familiale également, parce que
C'est dur à vivre dans le quotidien, c'est ça ce que je comprends.
Dans le quotidien, un TDAH, c'est vraiment pas
facile. Merci beaucoup, Marc, de votre témoignage. Merci bien. Marie-Chantal?
Oui, bonjour.
Bonjour, on vous écoute.
Écoutez, moi, j'ai sûrement un TDAH qui n'a jamais été diagnostiqué. Par contre, je vais dire, comme Amélie disait, la précédente personne qui a parlé, c'est ce qui fait que c'est mes forces aujourd'hui, c'est ce qui fait qu'on m'embauche, c'est ce qui fait que moi, j'ai appris, j'ai développé des trucs pour m'organiser, sans pilules, sans médicaments. Ma fille a été diagnostiquée TDAH en première année. J'ai tout fait pour pas lui donner des médicaments parce que je suis anti-pilule. Que ça soit polarité, neurocoaching, neurofeedback, homéopathie.
Vous avez tout essayé.
J'ai tout essayé. On n'a pas eu le choix parce que l'école l'exigeait.
Dites-moi, ça c'est intéressant. Comment ça marche à l'école? Dites-moi donc, c'est-tu vrai ça que l'école va dire, écoutez, pour moi, il y a des gens qui m'écrivent, qui me disent, moi, je n'ai pas eu le choix. Comme ce que vous venez de dire, Marie-Chantal, l'école l'a exigé et sinon, mon fils ou ma fille était plus accepté dans sa classe. Est-ce que c'est vraiment comme ça? On vous met un peu
C'est pas dit clairement comme ça, mais c'est très, très, très sous-entendu.
Mais il faut savoir que le protecteur de l'élève dans toutes les commissions scolaires peut aider les parents dans des situations pareilles. Parfois, les mots utilisés par l'équipe éducative sont maladroits parce qu'eux aussi vivent beaucoup de stress et beaucoup de panique à l'idée d'accompagner plusieurs enfants
parce qu'ils n'ont pas le temps ni les ressources.
Et ils n'ont pas nécessairement les ressources. Mais en même temps, il faut parfois qu'un joueur extérieur comme le protecteur de l'élève intervienne et remette un peu simplement, écoute, c'est quoi les besoins de l'enfant? Et ça peut calmer en fait en général une équipe qui serait simplement un peu trop en détresse à ce moment-là.
Mais moi, j'ai jamais entendu
allez-y, Marie-Chantal, puis Julie après.
Le fait qu'il y ait beaucoup d'élèves en classe, ça l'aide pas. Ma fille est rendue à 13 ans.
Ils sont combien dans sa classe? Ils sont combien dans sa classe?
24.
Ouais.
Mais dans le temps, c'était au primaire, c'était plus que ça. Mais le fait que, là, elle a eu un diagnostic de TSA à l'âge de 12 ans.
Ça, c'est quoi le TSA?
Donc, d'autisme.
Donc, de haut niveau, en ce sens qu'académiquement, elle n'a pas de difficulté, mais tout ce qui est interaction sociale, c'est plus difficile. Moi, je pense que le cerveau évolue de façon différente pour chaque enfant, pour chaque être humain. Il y en a qui vont aller plus vite, il y en a qui vont comprendre plus vite. Moi, j'ai commencé à baisser sa médication parce qu'elle était très, très, très agressive et très impulsive. Et on a eu une amélioration de 85 %. J'étais à me demander si je l'arrêterais pas complètement.
Mais l'école dirait quoi? Parce que là, ce que vous me dites, Marie-Chantal, c'est que vous n'avez pas eu le choix. L'école l'a exigé.
Au primaire.
Au secondaire, vous pourriez, à la rigueur...
Au secondaire, en classe, il n'y en a pas de problème. On a baissé sa médication. Elle n'a aucune difficulté à se concentrer. Elle fait deux, trois affaires en même temps.
Est-ce que ça se peut que ça ait été une phase?
Oui.
Ça se peut-tu?
Tout à fait. Il suffit parfois un mauvais duo, un professeur génial pour 99% de sa classe, mais un peu maladroit avec le 1%. Et parfois, ça arrive quand l'enfant est juste pas bien dans la classe. Ouais. Lui, il voit plus un professeur, il voit un loup, il voit un ours.
Ouais, ouais.
Et selon sa nature, peut-être que ce que madame disait tout à l'heure, sa difficulté à rentrer en relation avec les autres, ça peut venir compliqué. Puis il y a une chose que je voudrais revenir sur ce que Marc disait. C'est toujours délicat quand on discute de ce sujet-là, parce ouais. qu'il y a les parents qui sont extraordinaires, des
qui
profs
coupables,
extraordinaires, des médecins extraordinaires,
ouais. mmh.
qui font très bien leur travail. Mais quand on regarde le nombre de personnes, c'est pas une personne qui pose problème, c'est le nombre de personnes qui nous invitent à nous poser des questions sociales.
Merci, on va à la pause tout de suite. Il y a Lou qui m'écrit « Oh que oui, moi, ils m'ont obligé à faire prendre du Ritalin à mon enfant. » À tout de suite, tout le monde. J'aimerais entendre Julie Philippon là-dessus. On a encore des auditeurs qui vont intervenir. Je vais donner la parole à Patrick et Pascal. C'est intéressant, Pascal, parce qu'il est pharmacien. Il va nous dire comment il voit ça. Mais Julie, après tout ce que tu as entendu jusqu'à maintenant, qu'est-ce que tu as envie de dire?
Moi, ce que je trouve de vraiment important, là, puis qu'on met peut-être de côté, c'est qu'en écoutant les parents, puis moi autour de moi, avec mm-hmm. tous ceux que j'accompagne ou que je fréquente, c'est qu'on se fait juger. Puis on se fait juger tout le temps. On s'est jugé si on fait des démarches, si on pense que notre enfant a peut-être un TDAH, si jamais on décide de donner la médication, si on décide de ne pas donner la médication.
Ouais.
On se fait juger si on est au restaurant, notre enfant fait une crise, on ne sait pas comment l'élever. Fait que c'est beaucoup le jugement, puis des fois, ça nous freine, puis ça fait que ben, on ne fait peut-être pas toujours les bons choix ou les bonnes interventions. Puis c'est dommage parce que après ça, ben, ça fait comme des conflits où on se sent mal, où on ne fait peut-être pas justement les bons choix, parce qu'on a peur du jugement. Alors que comme parents, si
écoute,
on a tout essayé...
Oui, la question qui revient le plus là, dans mes commentaires là, sur isabelle@985fm.ca, les gens m'écrivent, là, on a reçu un diagnostic, on nous dit de prendre du Ritalin ou du Concertin, je fais quoi? T'sais, les parents ne savent pas qu'est-ce que je décide. Est-ce que je le donne ou je ne le donne pas? T'sais, les gens nous écoutent, puis ils écoutent d'autres choses.
En fonction de ce que les gens pensent. Il n'y a personne
qui va
assumer.
Mais quoi, on suit son instinct?
Exactement.
Ouais.
Et
on est spécialiste de notre enfant.
Exactement. Et je crois qu'il n'y a aucun conseiller qui va payer quoi que ce soit. C'est le parent qui va payer la note en bout de ligne.
On va parler à Patrick, mais Pascal est pharmacien, fait qu'on va faire appel à lui tout de suite. Bonjour, Pascal.
Bonjour.
Comment vous voyez les choses comme pharmacien? Là? Êtes-vous un peu responsable de tout ça? Je vous blague, là, mais...
Non, c'est sûr que, bon, l'intérêt pécunier et financier fait qu'on veut que les gens prennent la médication, mais si je veux que ma clientèle revienne me voir et qu'ils me fassent confiance, faut que je pense différemment.
Ouais.
Puis, étant papa moi-même, c'est sûr que je serais le dernier qui voudrait que ma fille prenne la médication pour ça.
Ouais.
Par contre, souvent, je vais voir toutes les parents, particulièrement les mamans qui vont venir et qui vont vouloir essayer toutes les ordonnances, tous les produits naturels plutôt, d'oméga-3 pour... l'ADH, puis l'AEP pour le développement du cerveau.
Ouais.
Parce que, bon, dans les pharmacies, il y a des rangées seulement de tous les produits qui sont assez dispendieux. Donc, souvent, je vais rassurer les mères en disant, écoutez, essayez-le, vous ne perdez rien. Parce que souvent, les parents, quand ils sont rendus là, c'est parce qu'ils ont l'ordonnance du médecin, puis ils sont très réticents à aller faire remplir l'ordonnance pour donner ça à leur enfant. Puis, écoutez, si vous voyez qu'en un mois, il n'y a pas d'amélioration, on peut essayer ensemble. Oui, il y a une période d'adaptation, de titrage pour donner le bon dosage et tout. Puis, le nombre de parents qui viennent me voir, ça fait, disons, 3 mois, 4 mois que leur enfant a commencé la médication prescrite, puis ils me disent, si j'avais su avant, j'aurais tellement commencé plus tôt. Pour quelle raison? Parce que, premièrement, l'enfant, ça va mieux à l'école. C'est pas juste au niveau des résultats scolaires, c'est au niveau d'acceptabilité sociale. L'enfant est capable de faire des amis, capable de s'intégrer dans un groupe. Il y a plusieurs parents qui, avant de donner à leur enfant, ils l'ont essayé eux-mêmes.
Mm-hmm.
Ils vont prendre les médicaments pour voir qu'est-ce que ça fait. Puis, quand j'ai ce discours-là avec mes patients, ou plutôt les parents de mes patients, ça les rassure énormément. Ça leur montre que sont pas les seuls dans cette...
Ouais. Mais ce que je retiens, Pascal, de ce que vous dites, c'est que vous dites c'est surtout pour l'acceptabilité sociale. Et ça, c'est pas rien. Ça veut dire, bon, pardon, est-ce qu'on est obligé de prendre des pilules pour se faire accepter dans un groupe? Peut-être qu'il y a des gens qui sont moins sociables que d'autres, puis c'est correct. C'est juste qu'aujourd'hui, on impose un modèle qui est, tu rentres au bureau, faut que tu fêtes avec les collègues. Tu vas à l'école, faut que ça marche avec les... C'est ça qui est...
aujourd'hui ou depuis
Merci en tous les cas, Pascal. Patrick, 10 secondes, parce que je sais que vous attendez depuis longtemps. Dites-moi rapidement ce que vous vouliez nous dire. Patrick, bonjour.
Bonjour. Moi, c'est mes enfants, puis c'est moi-même.
Oui.
Puis, on n'est pas là. C'est simplement comme ça.
Oui. Sans médicaments, c'est ça.
On n'est pas là.
Oui.
Non, on n'est pas là. On est des fantômes. On me parle, ma conjointe va me parler. Ils vont me dire de quoi d'important. Je dis, OK, écoute, il n'y a pas de problème. Je raccroche. Puis,
vous en souvenez
ailleurs.
Plus.
Ouais. Ouais. J'ai même pas eu la conversation. Ouais. Elle va me rappeler. Puis, as-tu fait ça? Quoi déjà?
Je comprends.
Puis, c'est en dedans de 10 secondes. Là.
Ouais. Merci, Patrick. Merci beaucoup. On comprend bien que c'est un vrai
problème.
Ressenti. Là. Merci tous les deux. Julie, Philippon, merci beaucoup de passer ce message qu'il faut effectivement poser des questions et pas avoir honte.
Oui.
Puis qu'on peut faire quelque chose de positif, tu voulais dire
oui,
ça
oui,
aussi.
Oui, oui. Puis on peut faire du positif et pas juste du chimique.
Merci beaucoup, Joël Monzé. Toujours intéressant. Merci bien.